Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis, chers auditeurs, est-ce qu'il faut se dispenser de nos obligations ou faut-il à tout prix être fidèle à ce qu'on a promis de faire? Faut-il être fidèle à la loi ou en prendre et en laisser? Et pour tout cela, nous avons besoin en effet d'une vertu qui consiste à appliquer la loi selon des circonstances qu'on appelle l'épiquie ou l'équité, comme le dit saint Thomas que nous citions à notre dernière causerie. Et par exemple, les fidèles doivent participer chaque dimanche à la célébration du sacrifice eucharistique, ce qui est un minimum vital pour vivifier notre baptême, comme nous le savons. Quand cette obligation grave entraîne de grands inconvénients non choisis, elle ne tient plus sous la loi, donc l'obligation ne tient plus pour les fidèles concernés. Il est même imprudent de se rendre à la messe quand on sait que cela aura des répercussions importantes sur sa santé. L'obligation demeure, mais dans ce cas, elle ne s'applique plus aux fidèles malades, qui ne fait donc pas une faute en manquant sa messe dominicale. Mais il aura soin, s'il est vraiment fidèle, de suivre la messe radiodiffusée. C'est là que la radio est intéressante et importante, n'est-ce pas ? La radiodiffusée ou télévisée, si cela lui est possible, ou de prier les textes de la messe en union avec sa paroisse ou avec toute l'Église. Maintenant, c'est tellement facile avec nos Magnificat, nos prions en Église, nos différentes parutions mensuelles qui nous donnent les textes de la messe de chaque jour. Donc c'est vraiment quelque chose de facile et d'important. Et le fidèle n'a pas besoin de permission pour cela. Sa vertu d'épiquie ou d'équité lui fait trouver en toute quiétude cette solution prudente à sa difficulté grave. Et si on n'est pas sûr, un moment ou l'autre, on peut demander conseil, et bien sûr, à un prêtre ou à d'autres fidèles. Bien sûr, il peut ensuite conforter son jugement moral, mais s'il a jugé en toute bonne conscience que la loi ne s'appliquait pas à son cas, il a posé un acte vertueux, donc un bon acte, vraiment louable. L'exercice de cette vertu demande une grande délicatesse et une grande clarté de conscience. L'épiquie ou l'équité est un sommet ou une fine pointe de la vie morale. Elle se situe à égale distance de la négligence et de la rigidité. Comme telle, elle est le fruit d'une formation morale solide et d'une vie fidèle. N'est-elle pas toute proche de cette douceur, de cette maîtrise de soi que saint Paul énumère dans sa liste des éléments du fruit de l'Esprit-Saint dans la lettre aux Galates au chapitre 5e, au verset 23. Les Romains ont toujours eu, je cite, l'esprit des lois, pour reprendre le titre du livre célèbre de Montesquieu, un de nos grands écrivains. Et leur génie trouve toute sa dimension dans l'organisation du droit. Qui plus est, et qui mieux est, les Romains d'autrefois comme ceux d'aujourd'hui ont aussi excellé dans la vertu d'épiquie, sans laquelle le droit n'est qu'un squelette sans âme, ou une armure impossible à transporter. Le cartésianisme français pousse à une application rigoureuse des lois, tandis que la légèreté ou l'esprit frondeur de nos compatriotes, de nous tous, nous rend habiles à toutes sortes de passe-droits. Nous sommes bien français. L'Église romaine a hérité du sens juridique des Romains et de leur épiquie. En promulguant les lois ecclésiastiques, le pape et ses dicastères, c'est-à-dire les ministères qui se trouvent au Vatican, savent user de souplesse et d'intelligence de leur application par toutes les finesses de la jurisprudence et de l'épiquie. Et n'est-ce pas une qualité du sacerdoce des Ahimelech? Ahimelech, c'est dans la péricope dans laquelle nous sommes dans le deuxième livre de Samuel, et où le prêtre Ahimelech dispense David et ses compagnons de l'interdiction qu'ils ont de manger des pains qui sont réservés aux prêtres, et il les donne à ces hommes qui n'ont pas mangé depuis deux ou trois jours. Et l'adage latin, c'est « Salus animarum suprema lex esto », et c'est un adage latin qui veut dire littéralement « le salut des âmes, c'est la loi suprême en tout ». Salut des âmes, donc c'est ce pourquoi est fait la loi. Et cet adage donc exprime bien dans quel esprit on doit utiliser le code de droit canonique dans l'Église, puisque le salut des âmes est bien son but constant. Si les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, il est bien nécessaire de les humaniser, ce qui est le propre de la vertu d'Épicée. Et vous savez que c'est la parole de Jésus qui était attaqué par les pharisiens parce qu'il a fait une guérison sans faire beaucoup de travail un jour de sabbat. Et il dit que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est bien ce que dit cet adage foncier et fondamental plutôt du code de droit canonique. Le prêtre Ahimelech, dont nous parlons, a eu raison de juger par la vertu d'Épicée que la fin de David et de ses hommes autorisait une dérogation à la loi qui réservait aux prêtres la consommation des pains d'oblation. Cependant, il faut reconnaître que David lui ment quand il lui explique « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache la mission dont je te charge et l'ordre que je te donne ». Le fugitif se présente comme en mission. Vous savez qu'il était persécuté par Saül, le roi précédent David, et qui était jaloux de lui. Même injustement poursuivi par Saül, David avait-il le droit de mentir au prêtre Ahimelech? Dire le faux avec l'intention de tromper constitue le mensonge proprement dit. Or, il n'est jamais permis de mentir, car il n'est jamais légitime d'user des mots pour leur faire signifier ce qu'on ne pense pas, afin d'induire son interlocuteur en erreur. Tout mensonge est donc péché. Nous voici donc en face d'une première faiblesse de David.